Bonjour Alain Richard.
Bonjour.
La conférence annuelle de Munich sur la sécurité va s'ouvrir demain. C'est un peu aux questions de défense que Davos est tous les ans à l'économie. L'un des objectifs de la conférence, ce sera de donner une plus forte existence à l'Union européenne en tant qu'acteur mondial de la sécurité. C'est un vieux débat. Peut-on dire que cette ambition est relancée, a été relancée, rendue plus urgente par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, dont les penchants isolationnistes sont assumés?
Écoutez, si la construction de l'Europe de la défense était une urgence, ce serait évidemment une déception, puisque c'est un processus qui se poursuit, qui se développe au long cours et qui suppose un alignement progressif des objectifs et des outils de défense de 27 pays souverains et indépendants. Donc, il y a en effet un facteur Trump, parce que Le point de départ de la situation, si vous voulez, c'est que la majorité des pays européens, faut pas oublier que vous construisez quand même votre politique de défense, vous fixez vos orientations et votre schéma général de pensée en fonction du passé, en fonction d'une longue continuité. Et donc, pour la plupart de nos partenaires, l'outil premier de sécurité contre les risques internationaux, c'est l'Alliance Atlantique. Et donc, ils acceptent tout à fait de discuter de projets européens, de convergence européenne, mais sous le parapluie, si vous voulez, sous la direction de l'Alliance Atlantique, qui, c'est vrai, a pour elle, quand même, une très forte organisation, un savoir-faire de coopération militaire concrète sur le terrain. Et donc, ils veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc, de ce point de vue-là, l'indétermination, enfin l'incertitude un peu permanente créée par la direction de Trump conduit les Européens à se prendre plus en charge. Ce qui a été le plus frappant, ça a été la réaction de la chancelière, quelques mois après l'élection de Trump, qui disait « bon, maintenant, il faut vraiment qu'on se prenne en charge ». Donc, ce mouvement se poursuit, avec quand même un arrière-fond, qui est que, pour beaucoup de gens, la continuité l'emportera. C'est-à-dire que il y a une vision un peu relativiste de Trump en disant, bon, d'accord, il y a Trump avec son côté imprévisible et son côté pas extraordinairement rationnel, mais en dessous, l'appareil tient. Et l'Alliance survivra à ça. Donc, le schéma général, c'est on fera plus de coopération européenne, on écoute les propositions françaises, mais de vous à moi, c'est quand même une faiblesse que la France soit en perpétuellement la seule à faire des propositions en faveur de l'Europe de la défense.
Certains ont pensé
c'est toujours perçu comme une manie française. Quoi.
Certains ont pensé que le Brexit, finalement, pourrait favoriser l'émergence d'une défense européenne parce que le Royaume-Uni n'avait pas beaucoup d'entrain sur le sujet.
Le Royaume-Uni était un facteur de blocage, pas tout à fait le seul. Hein. Il y a un ou deux autres pays européens qui sont aussi très réticents, mais puisque tout ça doit se faire à l'unanimité. Ouais. Vous êtes dans un domaine où il n'y a pas de partage de souveraineté, on ne vote pas la majorité. Donc, quand il était question de faire des choix d'organisation, de monter des outils qui poussaient l'Europe de la défense, qui la soutenaient, le Royaume-Uni était un négociateur difficile. Bon. Et par exemple, le faible développement de l'Agence européenne de défense, qui était l'outil d'acquisition, de préparation des programmes d'armement en commun, doit beaucoup à un freinage britannique. Donc de ce point de vue-là, ça peut en effet libérer un peu les énergies, mais le sujet premier, c'est plutôt la motivation positive des Européens pour se dire, nous créons un outil, certes compatible avec l'Alliance, et lorsqu'on ira vers des situations de conflit durs, on se retournera vers l'Alliance, mais nous voulons avoir une capacité de défense mieux partagée, dans laquelle chacun met sa contribution. Et de ce point de vue-là, l'évolution allemande des dernières années est significative. C'est-à-dire que la politique de défense allemande n'a pas beaucoup bougé, mais la volonté de mieux s'équiper, de rattraper sa faiblesse d'investissement militaire de l'Allemagne est une réalité. Donc il y a quand même des pas positifs qui sont faits.
Alors, puisque vous parlez de contribution, hier, ce sont les ministres de la Défense de l'OTAN qui se sont réunis. Les désaccords aujourd'hui, où les frictions sont relativement nombreux, il y a à la fois l'organisation même de la structure, les contributions financières, et puis il y a cette tension qui est de plus en plus forte entre les États-Unis et la Turquie. Ça, c'est un motif d'inquiétude aujourd'hui, notamment dans la lutte contre Daesh.
Oui, parce que, quand même, historiquement, la place de la Turquie, avec un appareil militaire très solide et une capacité d'action qui s'est vérifiée à plus d'une reprise, la place de la Turquie dans l'Alliance était un peu hors norme. C'est un contributeur en termes de puissance militaire à l'Alliance de la même importance que la France ou le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et donc la divergence politique, le glissement des objectifs de politique étrangère turque vers une domination régionale et une influence directe dans les conflits, les situations de tension au Proche-Orient est une gêne pour l'Alliance parce qu'au fond, tout le monde se dit si l'Alliance se trouve à un moment donné confrontée à une menace, confrontée à une situation de crise qui n'entre pas directement dans le schéma actuel d'engagement de la Turquie, est-ce que la Turquie est encore un allié fiable ? Ma conviction est que les Turcs, les dirigeants turcs, feront très attention à ça. Parce que pour eux, d'être un des piliers essentiels de l'alliance militaire la plus solide et la mieux organisée du monde, c'est quand même un atout. Donc ils feront, à mon avis, ils seront prudents à l'égard de tout ce qui pourrait menacer, au fond, leur place dans l'alliance. Mais ça n'empêche pas que les autres partenaires, non seulement les États-Unis, mais enfin aussi les Européens, les regardent aujourd'hui comme un sujet, comme un risque pour la solidité de l'Alliance.
Il va être question également de sujets très concrets et très brûlants, même la Corée du Nord. Est-ce que c'est un motif sérieux d'inquiétude pour vous aujourd'hui, la situation en Corée du Nord ? Quelle position, quelle attitude faut-il avoir à l'égard du régime nord-coréen ?
Écoutez, si j'étais en mesure de vous donner un mode d'emploi de l'adversaire nord-coréen en disant « voilà comment il faut faire », je deviendrais certainement une célébrité. Non, c'est une situation très dangereuse parce que non seulement la Corée du Nord a franchi des étapes très importantes vers l'acquisition complète d'une capacité d'emploi de l'arme nucléaire que tout le monde reconnaît maintenant, et avec un comportement qui est évidemment complètement à l'opposé des autres membres du club nucléaire. Donc c'est un pays qui représente un danger géopolitique, indéniablement. La possibilité de traiter ce sujet par une attaque militaire est visiblement en réflexion aux États-Unis. Je ne connais aucun autre des partenaires du jeu international, et en particulier des principaux contributeurs régionaux, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, du Japon et naturellement de la Corée du Sud, qui envisage cette option-là. Donc, on reste sur...
Certains disent quand on a essayé toutes les formes du dialogue et que rien n'aboutit, il ne reste plus que l'option de la force.
Mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'option de la force, c'est vraiment le déclenchement d'un conflit aux conséquences difficilement maîtrisables. Alors, bien entendu, il peut toujours y avoir des scénarios de science-fiction. Parfois, un jour, ils se réalisent. Si les États-Unis sont en mesure de sortir un outil d'incapacitation, si vous voulez, de paralysie de l'ensemble du système de décision politico-militaire de la Corée du Nord, ils peuvent toujours être tentés de faire ça. Mais le risque, en cas d'échec, est tellement élevé. Et surtout, le risque en tant que puissance dominante d'une alliance. C'est-à-dire, si vous prenez une action qui va entraîner des dommages irréparables pour un de vos alliés privilégiés. C'est-à-dire, si vous condamnez la Corée du Sud à un drame national de portée historique, vous n'êtes plus considéré comme un allié fiable par personne. Donc, pour moi, c'est vraiment une situation de risque dans laquelle il faut que la coopération internationale, le multilatéralisme, donne le maximum de ses capacités.
Merci Alain Richard. Bonne journée.